Éphésiens 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà, donc ce matin, le grand défi de l'éducation chrétienne dans la famille, dans le foyer. Ce matin, c'est la fête des mères et notre texte s'adresse principalement aux enfants et aux pères. Ça tombe bien, le meilleur cadeau qu'on peut offrir aux mères ce matin, c'est de vivre cette vision de la famille que Paul nous présente ici. Donc, les mères, vous êtes un peu en vacances ce matin, vous pouvez écouter, mais on aimerait vous offrir un cadeau d'être ces enfants et d'être ces pères que décrive le texte. Et si ça vous édifie aussi, tant mieux. Évidemment, ces versets ont une grande importance. La relation parent-enfant, c'est certainement la relation la plus marquante dans la formation de notre caractère, dans la formation de notre personnalité, nos habitudes, nos convictions. Bien sûr, notre relation avec Dieu est plus importante. Et si Dieu vous conduit au mariage, cette relation-là prime, oui, même sur la relation entre parents et enfants. Votre conjoint est plus important pour vous que vos enfants ou même vos parents. Mais j'ai pu constater que ni la conversion, ni le mariage n'effacent pas l'influence de nos parents. Il y a quelque chose qu'on gardera toujours de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Alors, d'où l'intérêt de ces versets pour nous. Ce qu'on remarque rapidement dans ces versets, c'est que Paul se démarque de toutes les visions typiques de la famille en parlant à la fois aux enfants, à la fois aux pères, aux parents. Les sociétés anciennes, traditionnalistes, mettent beaucoup d'accent sur la soumission des enfants, une autorité très stricte chez les parents. Et à l'époque même de l'apôtre Paul, hein, les pères avaient une autorité absolue. Et ces sociétés-là encouragent plutôt une sévérité, une dureté chez le père. Aucune remise en question de l'autorité parentale. Les enfants doivent se taire et obéir. Donc Paul n'abonde pas dans ce sens puisqu'il a un mot pour les pères. D'un autre côté, les sociétés modernes aiment bien dire voilà, il ne faut pas imposer des valeurs à nos enfants, il faut juste les accompagner dans l'autodécouverte de leur identité, il ne faut pas restreindre leur liberté, et ça revient plus ou moins à penser que l'enfant n'a jamais tort dans ses choix, dans ses goûts, dans ses orientations, il faut les laisser faire. Ça, c'est plutôt les théories de nos jours. Mais Paul n'abonde pas dans ce sens non plus, puisqu'il demande quand même une obéissance aux enfants. Je me dis, c'est un peu comme un coach, une coach d'une équipe de foot. Imaginons un coach d'une équipe de foot qui dit, voilà, je ne vais pas imposer des règles à mes joueurs, je vais les laisser développer leurs propres règles, leurs propres idées du jeu, pas de discipline, de tout ça, c'est le foot, mais s'ils ont envie de jouer avec les mains, on est dans un pays libre, je veux dire, ça fait pas mal à personne de toucher le ballon avec les mains, alors je vais préparer mon équipe dans cette optique-là. Alors c'est mal les préparer au match, au championnat, parce que dans les matchs, il y a quand même des règles, et l'arbitre va vite écarter cette équipe. Dans la vie, c'est pareil. La vie, nous vivons sur un terrain, c'est le terrain de Dieu, il est l'arbitre, et il y a des lois universelles auxquelles il faut adopter pour bien jouer, bien vivre. Et donc Paul apporte un équilibre dans ces versets en s'adressant à la fois aux parents, à la fois aux enfants. Alors moi, je vais faire comme Sou, j'ai deux points ce matin. Un mot aux enfants, et puis un mot aux parents, et particulièrement les pères. Donc, commençons avec un mot aux enfants. Combien y a-t-il ce matin d'enfants? Est-ce que tous les enfants sont passés de l'autre côté ce matin? Est-ce que je ne m'adresse pas aux enfants finalement? Combien d'entre vous sont des enfants? Ah, vous êtes tous des enfants, donc il y a quelque chose ici pour nous tous. Alors le principe général se trouve en verset 2, et là c'est un principe universel pour tous, quel que soit notre âge. Honore ton père et ta mère. Il prend ça des 10 commandements, c'est le 6e commandement, et ce principe s'applique à tout âge. Alors après, il applique à un cas particulier, c'est l'enfant, c'est les enfants, les jeunes, et à cet âge, l'honneur qu'on doit au père et aux mères prend la forme d'une obéissance. Mais puis bien sûr, avec le temps, plus tard, le jeune, l'enfant va devoir apprendre à s'affranchir en quelque sorte de leur autorité, en tout cas une autorité directe. On venait de voir dans le chapitre précédent que justement le mariage c'est quitter son père et sa mère, et quitter c'est pas seulement géographique, mais c'est quitter à plusieurs sens. Mais on continue à les honorer. Mais justement la Bible dit honore tes parents, c'est ça la force du commandement. Le mot est bien choisi, honore ton père et ta mère. Ça veut pas toujours dire suivre leur exemple. Ça ne veut pas toujours dire les obéir, notamment dans le cas des parents mauvais. Ça existe des cas, des parents horribles, des parents qui rejettent Dieu, et Dieu ne demande pas de suivre forcément leur exemple. Il y a quelque temps, on avait étudié la vie de David avec Saül et Jonathan. Heureusement, Jonathan n'a pas obéi son père Saül quand Saül disait qu'il fallait tuer David. Mais si vous regardez bien, Jonathan a toujours su honorer son père Saül. Donc le principe général, c'est trouver des manières d'honorer son père et sa mère, quel que soit l'âge. Mais ici, il s'adresse quand même aux enfants. Et là, on va le terme précis de l'enfant, c'est-à-dire ceux qui sont toujours jeunes et chez les parents. La bonne nouvelle, je trouve, pour les enfants, c'est que cette lettre s'adresse à eux aussi, vous les jeunes. Vous faites partie de l'Église. Vous pouvez, vous, être rempli du Saint-Esprit, parce que tout ce passage, comme on a vu la semaine dernière, il faut être rempli du Saint-Esprit pour mettre en pratique les instructions de Paul. Mais ce que Dieu vous demande, les enfants, c'est d'obéir à vos parents. Et Dieu vous donne les moyens, il vous donne le Saint-Esprit pour le faire. Et le Saint-Esprit peut vous accompagner même dans l'adolescence. L'adolescence n'est pas un passage obligatoire à la rébellion, mais c'est encore un moment où on peut obéir à ses parents. Pourquoi obéir à ses parents? Il vous donne quelques raisons ici. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Voilà la raison. C'est juste. Il ne dit pas il faut obéir parce que c'est la meilleure manière d'avoir de l'argent de poche. Il ne dit pas il faut obéir parce que vous aurez des meilleures notes à l'école. Il ne dit pas qu'il faut obéir parce que cela rendra vos parents fiers. Il dit c'est parce que c'est juste. Alors c'est un peu rigolo parce que les enfants, quand il y a une nouvelle règle ou il y a un peu de tension envers les parents et les exigences des parents, souvent ce que disent les enfants c'est c'est pas juste tout ça, c'est pas juste, moi je dois obéir, mes copains, mes amis n'ont pas ça, ou vous pouvez faire certaines choses, moi je peux pas faire, c'est pas juste. La réponse de Dieu, c'est juste. Vous obéissez à vos parents parce que c'est juste. Et avouez qu'au fond de votre cœur, vous savez que c'est juste. Les civilisations partout à travers le temps ont quand même reconnu l'intérêt de l'autorité parentale. Mais nous savons ce qui définit ce qui est juste et pas, et pour nous, pour le chrétien, nous avons le privilège de faire appel à un standard absolu qui est Dieu, qui sa personne, sa loi. Et justement, Paul rappelle que c'est juste parce que ça fait partie de la loi de Dieu, notamment les commandements. Alors il cite ce 6e commandement parmi les 10 commandements qui restent encore aujourd'hui la meilleure expression d'une moralité fondatrice pour une société. Et si vous regardez dans les 10 commandements, finalement, la raison d'être de chacun, c'est parce que ça reflète quelque chose dans la personne de Dieu. C'est pour ça que c'est juste, au fond. Quand on dit de ne pas tuer, C'est parce que Dieu est l'auteur de vie, Dieu est vie. Et donc, le meurtre porte atteinte à Dieu. Quand on dit de ne pas commettre l'adultère, c'est parce que Dieu est fidèle. Et quand on dit, par exemple, d'honorer ton père et ta mère, c'est parce qu'au fond, chaque être humain doit l'honneur à Dieu, qui est l'autorité suprême, qui est un Père céleste. Et par notre honneur, notre respect de nos parents, nous reflétons quelque chose dans le cœur envers le Père céleste. Et comme vous pouvez souvent constater, quand ça ne va pas avec Dieu, ça ne va pas avec les autorités qu'il a placées dans notre vie, que ce soit les autorités familiales, les autorités ecclésiales. Quand ça ne va pas avec Dieu, ça ne va pas avec les autres autorités. Mais quand ça va avec Dieu, en général, ça va avec les autorités qu'il a placées dans notre vie. Donc, vous obéissez à vos parents parce que c'est juste, parce que c'est un reflet du caractère de Dieu, de la loi de Dieu. Et voilà, c'est la raison ultime, et c'est la raison qui va vous porter à obéir, même si ça ne vous convient pas. À certains moments, il y a quelque chose dans vous qui dit « c'est juste ». Mais après, quand même, Paul ajoute une pensée, parce que le sixième commandement a, on va dire, un bonus, un petit bonus. Elle contient une promesse. Il dit c'est le premier commandement avec une promesse. Et cette promesse, c'est que dans les commandements, si tu honores ton père et ta mère, vous vivrez longtemps dans le pays que je vous donne. Et là, Paul pioche dans un grand thème de l'Ancien Testament avec Israël et les commandements, mais Dieu leur a donné, Dieu leur a dit que si vous obéissez à mes commandements, vous pouvez rester longtemps dans le pays promis. Vous serez heureux, vous serez protégés, vous serez stables dans le pays promis. Et la première fois qu'on voit cette promesse, c'est dans les 10 commandements, mais après c'est répété à de nombreuses reprises. Et cette promesse inclut, dans cette promesse, il y avait toute l'idée qu'Israël, en obéissant à la loi de Dieu, ils allaient être bien dans le pays promis, c'est-à-dire la protection de l'invasion des ennemis, la protection des mauvais dirigeants qu'ils pourraient avoir, la famine, l'exil. Finalement, toutes les galères qu'Israël a connues à cause de sa désobéissance. Alors Paul prend cette idée, il réapplique avec une promesse plus universelle, c'est-à-dire aujourd'hui les chrétiens, nous n'avons pas un pays promis territorial, géographique, mais Paul il élargit le principe, il dit, afin que tu vives heureux et longtemps. C'est un principe général, je pense, il dit pas, chaque enfant qui obéit à ses parents va vivre jusqu'à l'âge de 98 ans, et voilà, c'est plutôt un principe général. Mais cette vie heureuse, cette vie de longévité parle d'une stabilité, d'une la possibilité d'éviter beaucoup de galères, beaucoup de soucis. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une thèse doctorale pour savoir que les enfants qui ont une bonne relation avec leurs parents, qui écoutent leurs conseils, ils réussissent mieux dans la vie que ceux qui font tout le contraire. Donc, en tant qu'enfant, c'est une motivation d'obéir à nos parents. Ne serait-ce pas par leur meilleure expérience de la vie, ça vaut de les écouter. Quand vous avez 25 ans, il y a certainement des choses que vous aimeriez dire à la personne que vous étiez à 15 ans. À 25 ans, on aurait parfois bien aimé parler à soi-même à 15 ans. Et quand vous avez 40 ans, il y a des choses que vous auriez aimé bien dire à la personne que vous étiez à 18 ans, à 20 ans. Eh bien, Dieu a prévu la chose. Ça s'appelle des parents. Yes. Les parents ont cette qualité, c'est très particulier, que personne d'autre a. Premièrement, ils vous connaissent à fond. Ils vous aiment à fond. Et ils veulent le meilleur pour vous, à long terme, à fond. Ils vous connaissent à fond, ils vous aiment à fond et ils veulent le meilleur pour vous. Alors, il n'y a ni l'État, ni les copains, ni Internet partagent ces qualités de vous aimer, de vous connaître et de vouloir vraiment le meilleur pour vous. Donc, ça, leur conseil, ça vaut des goûters. Proverbe 1, versets 8 et 9 dit que l'enseignement des parents est comme un collier qu'on porte autour du cou. Mesdames, est-ce que vous avez un collier préféré ? Peut-être aujourd'hui, vous offrez à votre maman un collier. Elles sont toutes contentes de mettre un joli collier, peut-être un diamant qui pend au cou. Mais comme vous savez, le collier peut embellir le cou et le visage de la personne qui le porte. Et la Bible dit que l'enseignement de nos parents, c'est un collier pour ton cou. Alors aux enfants, je dis ce matin, soyez fiers de le porter, ce joli collier qui est l'enseignement de vos parents. Ça vous embellit, vraiment, ça vous embellit. Maintenant, un mot aux parents. Jusqu'à là, les parents sont très contents qu'on s'adresse aux enfants. J'espère que mon enfant écoute. Maintenant, c'est à vous. Ce passage s'applique bien sûr à tous les parents, mais il s'adresse particulièrement aux pères. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Hein. On trouve dans certaines langues le mot parent, c'est comme père. Donc il y a un lien entre père et parent, comme en espagnol. Mais ici, il y a quand même une différence. On trouve le mot parent dans le verset 1, obéissez à vos parents. Et puis en verset 4, et vous, pères, n'imitez pas vos enfants. Le projet, le grand défi d'éduquer nos enfants appartient aux deux parents, le père et la mère. Mais on remarque ici que Paul s'adresse aux pères. Pourquoi ? Eh bien, dans le monde gréco-romain, l'autorité du père était presque dictatoriale. Il avait une puissance illimitée. Mais du coup, cela crée une distance entre le père et ses enfants. Et l'éducation des enfants était souvent confiée aux mères ou aux tuteurs ou aux esclaves de la maison. Et le père avait peu d'échanges intimes, profonds avec ses enfants. C'était plutôt le chef, comme ça, et on ne discutait pas. Et donc, Paul corrige cette tendance, il demande au père de prendre un part très important pour élever les enfants dans le Seigneur. Et même aujourd'hui, parfois c'est naturel que la mère passe beaucoup de temps avec les enfants, c'est normal, mais les pères aussi doivent le faire. On peut rentrer du travail, par exemple, et le père, il a travaillé toute la journée, il est fatigué, il aimerait bien se reposer à la maison. La mère aussi a travaillé toute la journée avec les enfants. Elle n'a pas forcément droit au repos. Alors, c'est à ce moment que le père, il peut aussi prendre part à la vie de famille. En tout cas, dans notre monde aujourd'hui, l'absentisme, la démission paternelle est un des grands maux de la société. Et fait beaucoup de ravages. Donc l'appel au père de prendre part à la vie de famille est très important, comme nous avons vu la semaine dernière, déjà en tant qu'époux, en tant que mari, il est le chef spirituel de sa famille, et il doit l'être aussi dans l'éducation des enfants. Et puis l'instruction particulière de Paul ici, c'est « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alors, ce matin, j'aimerais voir plusieurs manières que nous, en tant que parents, en tant que pères, nous pouvons irriter nos enfants. L'idée d'irriter, c'est les pousser à l'exaspération, pousser à la colère, pousser à la révolte. Alors, si vous voulez irriter vos enfants, voici comment s'y prendre. Premièrement, une absence de discipline. Vous avez pu constater que les enfants les plus mal dans leur peau, ce sont souvent ceux qui ne sont pas disciplinés, jamais disciplinés. Alors attention, parce que l'enfant ne va jamais venir vers vous en disant « Tu mérites, tu m'agaces parce que tu ne me disciplines pas. » Mais au fond, c'est exactement ce qu'ils sont en train de vous dire. Attention aussi, ce n'est pas parce que l'enfant pleure ou boude ou fait la tête que vous êtes en train de l'irriter. Je dis à mes enfants, parfois, si vous pleurez ou boudez pour obtenir quelque chose, sachez que c'est la meilleure manière de ne pas l'obtenir. En tant que parents, nous devons distinguer entre maladresse et désobéissance. J'ai pu remarquer que la tendance est plutôt de corriger la maladresse et de laisser passer la désobéissance. Il vaut mieux viser la désobéissance et pardonner la maladresse. En tout cas, l'absence de discipline va pousser les enfants à une vie que eux-mêmes ils sont malheureux, et ils sont poussés à la rébellion et à être irrités. Donc, une absence de discipline, c'est une bonne manière d'irriter les enfants, même si vous ne direz jamais ça, mais c'est le cas. Ensuite, une autre manière d'irriter nos enfants, c'est une discipline excessive. Imposer des standards qui sont impossibles. On fait ça peut-être à tout âge, mais même avec les petits, mets tes chaussures, range ton manteau, ferme la porte, fais tes lacets, ils sont en train de faire les lacets, mais je t'ai dit de ranger ton manteau, mais quand est-ce que je peux faire tout ça? Donc ça c'est quand ils sont petits, après plus grands aussi, on peut avoir des attentes excessives ou viser simplement un comportement extérieur et pas le cœur de l'enfant. Dans certaines familles, tout est interdit pour essayer d'encadrer les enfants. Tout est interdit. Mais rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, Dieu a interdit un arbre et que tous les autres arbres, c'était OK. Alors, est-ce que dans nos foyers, est-ce que c'est la même ambiance ou c'est plutôt les choses sont encouragées? Il peut y avoir des interdictions, mais ce n'est pas... c'est pas ce qui domine, parce qu'on veut encourager nos enfants à envers plein d'activités saines. Ici, on nous dit d'élever les enfants selon le Seigneur, pas selon les pharisiens. Et vous avez dans les évangiles tout un avertissement à ce que peut produire juste le légalisme, la loi, quand elle ne touche pas et ne transforme pas le cœur. L'éducation de nos enfants vise le cœur. Il peut y avoir aussi dans cette discipline excessive une pression énorme sur les enfants de réussir. Ça, c'est peut-être plus grand, mais certaines cultures ou certains parents veulent tellement que leurs enfants réussissent, mais parfois c'est pas tant pour l'enfant, c'est pour ce que ça m'apporte à moi, c'est pour la fierté ou la gloire, ou c'est une manière de se justifier auprès des autres. Et on impose une telle pression pour l'enfant de réussir que ça aussi peut l'agacer, l'irriter et le pousser à s'éloigner de Dieu et de ses parents. Une autre manière de bien irriter vos enfants, c'est la discipline par énervement. C'est-à-dire on discipline avec des cris, avec la colère, avec des méchancetés. Il y a un excellent film qui est sorti récemment, assez connu je pense ici, il y a une scène où vous avez un exemple de cette discipline par énervement, le film s'appelle Friction. En tout cas, peut-être ça vous étonne, mais moi je suis souvent étonné quand je suis au parc ou au magasin de voir les mots que peuvent avoir les parents envers leurs enfants, les mots blessants, les mots accablants. Et au lieu de dispenser un châtiment dans l'amour, un simple châtiment qui réglerait rapidement la chose, on s'énerve et on apprend aux enfants que la solution pour régler les problèmes, il faut la colère, le volume. Et voilà, évidemment, ça pousse les enfants eux-mêmes à devenir colériques et irritables, puisque ils voient que les parents, c'est comme ça qu'ils font, ils ont des problèmes pour gérer tout. Eux-mêmes s'énervent, donc l'enfant s'énerve en retour. Donc, encore une manière d'énerver nos enfants. Ensuite, une discipline irrégulière ou variable, ça peut être d'un jour à l'autre, ou ça peut être d'un enfant à l'autre, c'est-à-dire manque de consistance, dans ce qu'on fait, si vous avez des attentes, maintenez-les de jour en jour, un jour punir, l'autre jour laisser passer, un jour punir, l'enfant risque d'être perturbé dans tout ça, ou bien entre les enfants, pas de favoritisme, viser tel enfant et laisser l'autre partir en disant lui c'est comme ça. Évidemment, il peut y avoir des principes différents en fonction de l'âge. En fonction de ce que c'est un garçon ou une fille, parfois une sagesse parentale, par exemple l'heure de coucher d'un enfant de 18 ans, c'est peut-être pas pareil que l'enfant de 5 ans, donc là c'est variable, mais c'est c'est pas injuste. Et les enfants peuvent reconnaître ça. Donc attention à une discipline qui soit injuste ou irrégulière, qui peuvent aussi perturber les enfants. Et enfin, cinquième manière peut-être d'irriter nos enfants, ce serait une surprotection. Nos enfants, le but c'est de les faire grandir. Alors de ne jamais leur faire confiance, de ne jamais leur donner certaines libertés, surtout avec les années qui augmentent, c'est aussi les étouffer, c'est leur apprendre que la seule manière d'obtenir des libertés, c'est de se rebeller. Et ce n'est pas le message qu'on veut envoyer. Le message qu'on veut envoyer, c'est on est dans ce processus de vous accorder de plus en plus de liberté pour voler de vos propres ailes. Donc une surprotection peut être dangereuse. Le texte ce matin avec même Moïse et sa mère, à un moment, elle ne pouvait plus elle-même protéger son enfant. Et par la foi, quelqu'un va dire, mais elle a abandonné, elle est folle. Mais non, les circonstances et sa foi en Dieu l'a poussé à c'était plus possible de faire une surprotection pour l'enfant, c'était même plus dangereux pour lui. Donc il y a un moment, elle l'a livré aux eaux, livré entre les mains de Dieu, et Dieu s'en est occupé. Il peut y avoir une surprotection aussi quant aux conséquences de leurs actions. Parfois la meilleure chose qu'on peut faire pour nos enfants, c'est les laisser agir, ensuite porter les conséquences de leurs actions, ensuite payer la réparation, et comme ça, ils apprennent. On ne peut pas leur donner ni des forces de la vie non plus, avec les conséquences de leurs actions. Donc une surprotection peut être dangereuse dans ces cas-là aussi. Donc, voyez quelques manières que nous, en tant que pères, en tant que parents, nous pouvons mal éduquer nos enfants, en tout cas les irriter. Alors, mais Paul dit ne pas ça. Au contraire, il dit n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Là, j'aimerais aller un peu plus loin dans la réflexion, parce que dans ce qu'il dit là, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, le mot corriger, un mot un peu difficile à traduire. Ailleurs, c'est traduit d'ailleurs instruction. Mais là, Paul utilisait un mot qui est très important pour les Grecs, paideia. Et pour eux, c'était un vaste programme, le paideia des enfants. C'était toute une éducation, un ensemble de connaissances, une vision du monde qu'il fallait transmettre aux enfants pour qu'ils prennent leur place en tant que citoyens dans la culture grecque. Donc c'était un vaste sujet, hein. Il y a des mots qui sont assez simples, qui sont bornés dans leur sens, toboggan, serpillière, ça c'est assez simple. Après il y a des mots qu'on étudie à la fac pendant des années, où il y a des volumes qui sont écrits sur le sujet, comme laïcité ou démocratie, ou république. Bon, paideia, c'est un de ces mots-là. C'est un vaste sujet, très important pour les Grecs, et Paul dit, faites un paideia selon le Seigneur. D'ailleurs, on trouve ce mot dans le mot encyclopédia. Cyclo, c'est faire le tour. Et donc, l'idée d'une encyclopédie, c'est de pouvoir faire le tour de connaissances, de tout ce qui est d'une manière de voir la vie et le monde. Une encyclopédie permet d'avoir un ensemble de connaissances. Wiki vient d'un mot hawaïen pour rapide. Donc, Wikipédia, c'est censé avoir un accès rapide à des connaissances. Et c'est ce que Paul dit aux parents, de donner à leurs enfants, mais cette fois-ci, c'est selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Alors, c'est juste pour vous dire que vous voyez bien que ce mot n'est pas synonyme de fessé. Mais vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les avec tout un vaste programme qui est selon le Seigneur, un ensemble de connaissances, d'éducation pour voir le monde, avoir une vision chrétienne du monde. Alors, les châtiments peuvent faire partie, la discipline peut faire partie de cette grande éducation, mais ne se limite pas à ça. Donc finalement, ce que Paul vise vraiment, c'est l'éducation des mœurs et des valeurs chrétiennes, une vision du monde chrétien pour nos enfants. Et je dirais que là, c'est le grand défi. Un grand défi, c'est de leur transmettre ça et qu'ils puissent reconnaître que la foi chrétienne, c'est celle qui explique mieux la réalité de notre monde, de notre univers. C'est qui voit un vécu authentiquement chez les parents, un ensemble de vérités qui colle avec les réalités et qui leur permet de vivre. Et c'est pour ça que l'éducation chrétienne, ce n'est pas juste une affaire d'interdiction et de châtiment, mais de leur donner une vision du monde qui est selon un Seigneur. Quelqu'un qui est passionné de foot, par exemple, et qui aime ce sport, il ne trouve pas les règles débiles. Il trouve que les règles permettent le sport et il est content avec ces règles-là. De la même manière, nous voulons éduquer des enfants qui aiment la vie et qui trouvent les règles et les principes chrétiens pas débiles, mais c'est justement ce qui permet de profiter, de jouir de la vie. Donc, notre travail en tant que parents, c'est transmettre toute une philosophie, toute une éducation chrétienne à nos enfants. Et le défi, surtout de nos jours, c'est que vous pouvez savoir que vous avez des concurrents. Vous avez des concurrents à cette tâche, et il y a d'autres qui aimeraient eux aussi donner une vision du monde, une éducation globale, une idée globale du monde, des valeurs, des mœurs. Et Paul vous demande de veiller à ça, d'élever les enfants comme un coach qui les aide à connaître les règles du jeu pour pouvoir mieux jouer et mieux aimer le jeu. Donc, il nous a donné un mot aux parents, il nous a donné un mot aux enfants. Et ça, c'est le grand défi pour les foyers chrétiens, de vivre ces choses. La difficulté de ces textes, de ces messages, c'est que dès qu'on parle de ça, tout le monde, on se sent tous déficients. Quand on dit comment être un bon parent, rapidement, je ne me sens pas un bon parent. Et des fois, il y a des jours où j'ai l'impression de rien maîtriser. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Mais encore, il rappelle que tout ça, c'est selon le Seigneur. Il répète à deux reprises, obéissez à vos parents selon le Seigneur et les instruire selon le Seigneur. Ça, on peut faire, c'est les pointer vers le Seigneur, pointer vers un Christ, le Sauveur. Et pour pointer nos enfants vers le Sauveur, nous devons nous-mêmes être tournés vers lui et marcher vers lui, avec lui. Et c'est ça la bonne nouvelle aussi de la Bible, de l'Évangile, c'est que Jésus, il est venu, en fait, il est venu exprès pour obéir à son Père, parce que nous n'avons pas obéi, nous, à nos pères terrestres, ni à notre Père céleste. Alors Dieu a dit à Jésus, bon, tu vas aller là-bas et tu vas m'obéir parfaitement, parce qu'eux, ils ne l'ont pas fait. Et comme ça, ton obéissance, je vais les prendre à la place de la leur. Et si vous regardez bien la vie de Jésus, c'est ce qu'il a fait. Depuis son enfance, il s'est soumis à ses parents, Marie et Joseph, mais plus que ça, il s'est soumis à son père. Il a montré une obéissance parfaite et c'était le but de sa mission, pour pouvoir nous sauver, nous justifier, nous qui avons été souvent désobéissants. Je reviens à cette promesse. Si tu honores ton père et ta mère, si tu obéis, tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Appliquant cette promesse à Jésus-Christ, le Fils parfait, il a obéi à son père, il a obéi à tous les commandements, notamment le sixième commandement. Est-ce qu'il a vécu longtemps sur la terre? Est-ce que sa vie était absente? Est-ce que dans sa vie, il y avait une absence de soucis, de galères, d'ennemis, de problèmes? Non. Il n'a pas vécu longtemps sur la terre, en tout cas, et sa vie a été remplie de problèmes et d'attaques. Lui-même était en quelque sorte exilé de son peuple, banni et même crucifié. Mais pourquoi tout ça? En fait, c'est parce que Jésus, il est venu, et notamment sa mort à la croix, il portait sur lui toutes ces malédictions, ces jugements prononcés sur l'Ancien Testament, sur le peuple, si tu n'obéis pas toutes ces choses, voilà ce qui va t'arriver. Eh bien, toutes ces choses sont arrivées à Jésus-Christ. L'exil, le bannissement, la mort, l'éloignement de Dieu, il les a connus parce qu'il portait sur lui notre condamnation. Toute la malédiction qu'annonçait l'Ancien Testament, si on n'obéit pas, Jésus le portait pour que nous soyons bénis, pour que toutes les promesses de l'Ancien Testament, pour que toutes les bénédictions qui sont annoncées deviennent les nôtres. Et la réalité, c'est qu'en Jésus-Christ, tout le monde, quelle que soit son enfance, quelle que soit sa vie de parent, tout le monde touche à cette promesse d'être, de pouvoir être heureux et de vivre longtemps. Si ce n'est pas sur cette terre, c'est vivre éternellement auprès de Dieu, dans le bonheur. Et ça, c'est offert à tous. Quels que soient les parents que nous avons eus, quels que soient les parents que nous avons été, il y a la belle promesse, la bonne nouvelle de l'Évangile que Jésus a été obéissant à notre place. Alors que cela nous motive à nous être des parents comme Dieu. Le même passage, Paul disait qu'il faut imiter Dieu, qui est un bon père, et nous pouvons marcher comme des enfants. Donc chacun de nous sommes des enfants de Dieu, et ça nous donne des aides pour savoir comment gérer nos enfants et comment être le père, les pères que nous devons être. Donc voilà le cadeau que nous allons offrir aux mères ce matin, d'être ses enfants, d'être ses pères, et que Dieu nous aide à le faire.